Pour mieux ouvrir mon propos, je partirai du programme de notre rencontre. Il reflète bien, me semble-t-il, les deux temps forts de la production historiographique normande. D'un côté, les XIe-XIIe siècles, et de l'autre côté, une reprise qui se renforce à partir de la fin du XIVe siècle et au XVe siècle. C'est dire qu'il y a un temps mort, un temps, disons, de ralentissement, après l'annexion de 1204, pendant tout le XIIIe siècle et une grande partie du XIVe siècle. L'existence de la chronique de l'anonyme de Caen, composée dans les années 1340, conservée dans un manuscrit unique, mérite d'autant plus de retenir l'attention. Pourtant, cette chronique a été curieusement délaissée. Certes, un fragment du livre 4 a été publié en 1865 par Nathalie de Vailly et Léopold de Lille dans le tome 22 du recueil des historiens des Gaules et de la France. C'était la troisième livraison des monuments des règnes de Saint-Louis à Charles IV, où les deux éditeurs avaient choisi de rassembler entre autres un groupe de chroniques latines qualifiées par eux de second ordre. En 1892, l'historien normand Athanase Genechâtel redonne dans le tome 32 des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie une édition cette fois complète du livre 4, accompagnée d'une introduction et d'un sommaire détaillé des livres 2 et 3. Quelques années plus tard, sans beaucoup de ménagement, parce que Châtel est encore en vie, Auguste Molinier, dans son manuel bibliographique, écrit que la chronique n'est qu'une méchante compilation et que l'édition des sources de l'édition donnée par Châtel est nulle. Alors, je dois dire que je serai moins sévère qu'Auguste Molinier. Je me suis beaucoup servi de l'édition de Châtel. Elle est cependant brouillonne et il faut faire le tri de ce que l'on peut garder, de ce sur quoi on peut s'appuyer et de ce qu'il faut évidemment critiquer. Néanmoins, le jugement d'Auguste Molinier dans ce manuel bibliographique qui a fait autorité pour des générations et des générations d'historiens les a peut-être bien découragés de lire la chronique de l'anonyme de Caen et de s'en servir. Même les historiens de la Normandie ont souvent préféré des textes postérieurs, je pense à la chronique des quatre premiers Valois, je pense à la grande chronique de Normandie, et ont délaissé ce texte de l'anonyme de Caen qui pourtant faisait un récit plus proche des événements. Il n'y a finalement que Léopold de Lille qui s'est servi dans ses pièces justificatives de son histoire du château et des sires de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de la chronique hein, dont il donne en pièces justificatives un court extrait. C'est pourquoi je vous propose de rouvrir ensemble ce dossier en présentant dans un premier temps l'unique témoin de l'œuvre et ce que nous savons de son histoire. Puis nous aborderons la question de l'identité de l'auteur et celle de son lien avec la Normandie, avant dans un troisième temps d'essayer de comprendre le contexte dans lequel l'œuvre a été conçue et les intentions dont elle pouvait être porteuse. Le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale sous la cote latin 49-42 comporte actuellement 202 folios de parchemin. Des folios qui mesurent 327 mm par 240. C'est un manuscrit qui peut être daté sans problème de la première moitié du XIVe siècle. La présence de réclames et même de signatures de cahiers permet de supposer que le texte était à l'origine rédigé sur 28 cahiers, pour la plupart des quaternions, dont 5 sont aujourd'hui perdus. Puisque, à la fin du premier cahier subsistant, la signature est celle du sixième cahier. Sur ce point, Delille et Châtel se sont, je crois, trompés. Ils disaient qu'il n'y avait qu'une dizaine de folios de perdus. Ils se sont trompés en prenant une numérotation, qui est en fait une numérotation de chapitre, pour une numérotation de foliotation. Donc la perte est plus conséquente qu'on ne le pensait au moment des éditions fragmentaires. Le texte est mis en page sur deux colonnes de 32 lignes, copiées par au moins deux mains dans une écriture de la première moitié du XIVe siècle. Ce texte a été relu par l'auteur et porte de nombreuses corrections interlinéaire ou marginal. Les chapitres, que l'auteur appelle des tituli, s'ouvrent par une lettre initiale. Les alinéas sont marqués par des pieds de mouche, alternativement rouges et bleus. La rubrication des titres de chapitres a été prévue sur l'ensemble du manuscrit, mais n'a été réalisée qu'en partie. À la suite de la chronique, dont la fin est marquée par un explicite, nous sommes au folio 178 verso, figure un dossier d'addition présenté par Châtel comme la cinquième partie de l'œuvre. Il s'agit en fait, selon le propos même de l'auteur, de pièces qu'il avait omises dans un premier temps, par souci de brièveté, ou qui ont été portées à sa connaissance plus tard et qu'il a jugé dignes d'être notées, mais qu'il a maintenues à part afin de ne pas bouleverser, de ne pas détruire l'ordre du volume déjà écrit en les insérant là où il aurait convenu. Mais il a mis en place un système de renvoi entre les différentes pièces du dossier et le reste du manuscrit, et de cette façon, si vous voulez, il est tout à fait aisé pour le lecteur de se faire une idée très précise de l'emplacement prévu pour ces interpolations. On le voit également ici. À droite, vous avez la pièce du dossier dans les additions, et vous voyez dans le manuscrit, très exactement au folio 161 verso, infra in additionibus, on voit l'endroit donc où aurait pu être injectée la pièce préparée. Ces éléments nous mettent en présence d'un manuscrit donc d'auteur, mais un manuscrit préparé et corrigé avec soin, en vue d'être présenté à un public, voire peut-être d'être reproduit. Tout laisse à penser que cette ambition de diffusion fut déçue. Le manuscrit resta sans doute à Caen jusqu'à ce qu'il vînt vraisemblablement dans le dernier tiers du XIVe siècle en la possession du carme normand Jean Gollin, régent de la faculté de théologie de Paris, provincial des carmes, conseiller et traducteur réputé au service de Charles V. Jean Gollin avait passé les 20 premières années de sa vie en Normandie et il y avait sans doute gardé des liens qui lui ont permis d'obtenir ce manuscrit. Il emporta le manuscrit à Paris et le légua à sa mort en 1403 à son couvent. Et donc le latin 49-42 resta dans le couvent, dans la bibliothèque du couvent de la place Maubert jusqu'en 1672. Date à laquelle il fut acquis avec 94 autres volumes par Colbert pour la bibliothèque du roi. Il fut alors livré aux mains d'un relieur qui perturba l'ordre des folios du dossier d'addition, mais qui dota aussi le volume d'une belle reliure sur laquelle on inscrivit « Anonymi chronicon ab origine mundi », sans la moindre allusion donc à l'origine canaise de ce manuscrit. C'est Léopold de Lisle et à sa suite Eugène Châtel qui firent de l'anonyme un canet. C'est un point sur lequel il n'y a pas lieu de revenir en raison des indices très sûrs semés par l'auteur au fil de son texte. En particulier dans la partie contemporaine du récit, il donne toute une série de précisions sur le prix des denrées entre 1316 et 1343, le prix des céréales, du sel, des moules, du poisson. Et on peut tout à fait l'imaginer présent dans la ville dès des années 1310, sans doute, peut-être un petit peu avant, plutôt bien implanté dans le paysage urbain. Au-delà des murs de la ville, son horizon semble être celui des diocèses d'Avranches, Bayeux, Cé et Lisieux. Il mentionne en particulier les évêques de ces diocèses. J'ai l'impression qu'il connaît moins la région de Rouen, qui n'apparaît pas dans la partie contemporaine du récit. Dans l'espace des diocèses que je viens de nommer, il connaît aussi l'histoire des monastères. Et il est bien possible qu'il fréquente ces monastères. Il y a en particulier une allusion à l'abbé de Cerisy et surtout à une coutume qu'il dit d'être encore d'actualité en son temps, qui est une sorte de rappel de la mort qui est faite à l'abbé de Cerisy par des jeunes moines à chaque fois qu'ils se mettent à table. Cependant, l'horizon dépasse celui de la Normandie. Il est bien possible que l'anonyme ait eu des contacts avec Paris ou qu'il se soit rendu à Paris. Il y a, en tout cas, il a des informations qui sont des informations parisiennes. Et il faudra même envisager qu'il ait pu consulter des sources composées à Paris ou à Saint-Denis. Cependant, la quête de ces sources paraît avoir été menée en grande partie en Normandie. Nous en avons en tout cas l'assurance pour deux textes, le premier qui est revendiqué et le second qui est largement utilisé. Alors, je commence par le premier. À la fin du livre 2, l'anonyme raconte le départ de Joseph d'Arimathie de Palestine, muni du vase contenant le sang du Christ, et il ajoute que cette histoire est, on peut la lire dans l'Historia Britonum, mais qu'il en a eu connaissance aussi par une quadam chronica monasterii fiscanensis. Il désigne sous ces mots le libellus de Inventione Sanguinis Christi, composé à la Trinité de Fécamp, tout à fait à la fin du XIIe siècle ou dans les premières années du XIIIe siècle, et que l'on pouvait consulter au milieu du XIVe siècle dans la bibliothèque de cette abbaye bénédictine. La seconde source est la chronique de Sigebert de Gembloux, à laquelle devait être associée, dans le manuscrit à disposition de l'anonyme, comme d'ailleurs dans beaucoup de manuscrits de la chronique de Sigebert, la chronique de Zeb Jérôme, qui permettait finalement de remonter à des temps très anciens, et c'était très pratique quand on voulait couvrir une histoire universelle. Alors Châtel avait bien vu cela, il avait bien vu Sigebert de Gembloux. Châtel pensait beaucoup à deux manuscrits présents dans la région, le manuscrit d'Avranches, celui que vous avez vu hier sous la cote 159, et le manuscrit de Bayeux. J'avais une petite préférence pour le manuscrit d'Avranches jusqu'à la conversation que j'ai eue hier soir avec Benjamin Paul, que je remercie infiniment, et qui m'a mis ce matin au petit déjeuner sur la piste du manuscrit de Leiden, qui comprend, outre la chronique de Sigebert de Gembloux remaniée par Robert de Torigny, mais également les Gesta Normannorum Ducum, l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, autant de textes dans lesquels l'anonyme va puiser une matière bretonne, normande et anglaise, dont je vous reparlerai tout à l'heure à propos du livre 4. Mais nous avons donc bien là la confirmation d'un historien normand qui se sert de sources qu'il a dans un environnement normand proche. Delisle et Châtel voulurent aller plus loin dans l'identification de l'anonyme et proposèrent de voir en lui un frère dominicain. Delisle avançait, pour justifier cette appartenance, le récit figurant à la fin de la chronique de l'enfermement des cardinaux par Philippe de Poitiers dans le couvent des frères prêcheurs de Lyon en juin 1316, au moment où il avait fallu que Philippe regagne en toute hâte Paris pour s'assurer de la succession de son frère Louis X. Châtel avait repris l'argument en en donnant un second, l'épisode dans lequel Saint-Louis offre aux prêcheurs de Mâcon, pour en faire leur couvent, le château du comte qu'il vient de confisquer. Quand on y réfléchit, aucun de ces deux arguments n'est absolument inattaquable. D'autres chroniqueurs, Jean de Saint-Victor par exemple, mais aussi l'auteur de la chronique de Flandre, donnent un récit très proche de la manière dont Philippe de Poitiers avait traité les cardinaux en juin 1316. Quant à l'épisode du couvent de Mâcon, l'anonyme l'a tiré en fait de sa lecture d'Étienne de Bourbon. Il n'y a là donc rien de véritablement décisif. La figure de Saint-Dominique n'apparaît jamais dans la chronique et la naissance de l'ordre dominicain n'est pas non plus évoquée. Alors j'ai cherché des solutions alternatives. Franciscain, un moine bénédictin de Caen, un carme, je n'ai aucun élément qui soit vraiment satisfaisant. Donc je propose de laisser ouverte l'hypothèse d'un auteur dominicain en versant au dossier d'autres arguments que ceux avancés par Delisle et Châtel. Un premier argument serait celui de l'épisode de l'arrestation et de la condamnation des Templiers, qui est évoqué en 1316. Notre anonyme a la mémoire très sélective dans la partie contemporaine, et il a jugé utile de mentionner cet événement. Or, à Caen, l'interrogatoire des Templiers, il y a eu 13 Templiers qui ont été arrêtés par le bailli Jean de Vertot. L'interrogatoire a eu lieu le 28 et le 29 octobre 1316, et ce sont les frères dominicains qui ont mené cet interrogatoire. 4 frères dominicains, le sous-prieur, le lecteur et 2 autres frères qui sont nommément désignés dans le procès-verbal qui a été récemment édité. Alors bien évidemment, ça serait tout à fait téméraire de mettre un lien entre ces dominicains qui interrogent les Templiers et notre auteur, d'autant plus qu'il y a en gros une génération hein, entre 1307 et le moment où la rédaction de la chronique a lieu, mais il y a peut-être eu dans le couvent dominicain la mémoire de cet épisode. Pourrait peser davantage en faveur de l'hypothèse dominicaine la présence, parmi les sources de l'anonyme, de 3 textes qui font autorité au sein de l'ordre. Le premier, c'est la vie de Saint-Louis, qui a été composée par Geoffroy de Beaulieu, qui a eu un rôle important dans le contexte de la canonisation de Louis IX. On en trouve des traces assurées dans la chronique. On trouve aussi des emprunts très nombreux à des exemplats d'Étienne de Bourbon, qui est aussi un auteur dominicain. Et finalement, le portrait de Louis IX que fait l'anonyme de Caen, c'est bien celui des hagiographes mendiants, qui a été étudié par Jacques Le Goff. Comment ne pas mettre en relation cette attention portée à la figure de Saint-Louis avec le culte que les dominicains furent les premiers et plus ardents promoteurs en Normandie, comme François Neveu l'a montré. Le troisième texte que l'on peut rattacher à la tradition intellectuelle dominicaine et le livre des échecs publié par Jacques de Cézolle entre 1259 et 1273. Châtel avait bien vu dans les additions à la fin du volume un intérêt pour le jeu des échecs, mais il n'avait pas repéré, peut-être parce que le texte n'avait pas été encore édité au moment où il fait son travail sur l'anonyme. Le texte latin de Jacques de Cézolle n'avait pas encore été édité. Et c'est bien la version originale latine de Jacques de Cézolle que l'anonyme de Caen a eue sous la main et dont il a fait un résumé très exhaustif en suivant vraiment l'œuvre sur toute sa longueur. Bref, l'identité dominicaine n'est pas absolue, hein, n'est pas certaine, mais je crois que l'on peut dire que les frères prêcheurs, et parmi eux des plus autorisés, semblent bien avoir eu quelque influence sur les lecteurs de l'anonyme. Reste à comprendre pour quel projet historiographique ces sources furent mobilisées. Alors, nous n'avons pas encore discuté la fourchette chronologique de la rédaction. La chronique s'achève à l'année 1343. Rapportons pour avant-dernier épisode la mise en place de la gabelle qui a été décrétée par une ordonnance du 20 mars 1343. Le chroniqueur évoque aussi, dans un paragraphe très proche, de nouvelles mutations monétaires qui pourraient correspondre à celles qui ont été décidées au cours de l'été 1343. Il raconte aussi avec force détail l'exécution d'Olivier de Clisson qui a eu lieu le 2 août 1343. Et dans le même paragraphe, il évoque un autre traître à Philippe VI qui est Godefroy d'Harcourt. Et il précise à son sujet qu'il a été banni du royaume. Or, le bannissement a été signifié par le roi le 15 juillet 1344. J'ai donc l'impression que l'anonyme est encore au travail dans le courant de l'été 1344. Ensuite, je n'ai plus aucun indice qui permette de penser qu'il ait travaillé beaucoup au-delà. Il ne parle pas du siège de Caen, il n'évoque pas Crécy, il n'évoque pas la peste de 1348, ni la mort de Philippe VI. Le terminus acquo est beaucoup plus difficile à déterminer. En essayant de distinguer la part des souvenirs personnels du moment où l'auteur passe à une forme de récit plus analytique, en tenant compte également du contexte normand qui a pu susciter la mise en œuvre du texte, je proposerai avec beaucoup de prudence l'élaboration d'un projet entre 1332, date de l'avènement d'un nouveau duc, et la deuxième moitié, la fin des années 1330, qui voit s'accumuler au-dessus de la Normandie les menaces de la guerre. La perte des premiers cahiers nous a peut-être privés d'un prologue dans lequel l'auteur présentait son projet et évoquait le public ou le destinataire auquel il le destinait. En l'absence de cette pièce liminaire, nous ne pouvons que tenter une reconstitution du plan d'ensemble. Il se présente en 4 livres et l'auteur parle à plusieurs endroits de « Libri Chronicarum ». Le seuil de chacun de ces livres devait être orné d'une lettre initiale, comme celle que vous voyez, celle du livre 3, de taille supérieure à la lettre initiale ouvrant les chapitres. Celle des livres 1 et 2 manque, du fait de la lacune, celle du livre 3, vous l'avez sous les yeux. Il semble qu'on ait oublié de mettre celle du livre 4, mais il y a un titre courant qui indique bien l'ouverture du livre 4. Le contenu respectif des livres 3 et 4 ne pose pas de problème puisque l'auteur nous informe de la conception qu'il en a eue. Le livre 3 est dénommé « Liber de Gentibus ». Il évoque les peuples païens qui développèrent des royaumes et des empires en parallèle avec l'histoire du peuple juif. Il inclut l'histoire romaine et celle de l'Empire romain jusqu'au règne de Constantin et d'Irène. C'est donc avec l'avènement impérial de Charlemagne que s'ouvre le livre 4, dans lequel l'auteur nous dit qu'il va parler de l'histoire des rois de France, mais qu'il fera aussi place, en des lieux opportuns, aux Anglais et aux Normands. Le problème, c'est évidemment les deux premiers livres, pour lesquels nous avons une lacune. Les 49 folios du livre 2 sont suffisants pour comprendre qu'il s'agissait de l'histoire du peuple juif jusqu'aux années 70 de notre ère. Ce livre s'ouvrait-il avec le déluge ou avec la naissance d'Abraham? Où était la césure avec le premier livre totalement perdu? Totalement perdu, certes, mais le dossier d'addition permet d'en avoir une petite idée. En effet, l'auteur a préparé les pièces d'addition en suivant l'ordre de l'œuvre initiale. Le premier ajout doit être, dit-il, « Primo quidem libro chronicarum titulo de Angelis additur ». Nous avons donc ici la confirmation que l'anonyme a voulu réaliser une chronique universelle qui commençait à la création du monde, avec un chapitre sur la création, puis la chute des anges. Dans ce premier livre, il était également question des signes du zodiaque, sujet que l'auteur aurait souhaité développer puisqu'il prépare une addition. L'addition au titre 15, « De partibus indie », et celle apportée au titre 16, qui donne des détails supplémentaires sur les villes de Syrie, suggère que figurait aussi dans ce premier livre une description Orbis Terrarum. Elle précédait le récit du déluge, pour lequel un ajout est envisagé également dans le dossier d'addition. Les bibliothécaires du roi, au XVIIe siècle, avaient donc eu parfaitement raison de faire inscrire sur la reliure du volume qu'ils venaient de recevoir « Chronicon ab origine mundi ». La chronique universelle est le genre majeur de la production monastique des XIIe-XIIIe siècles. Et là, on a pu dire quelquefois que ces prolongements, dans la première moitié du XIVe siècle, relevaient d'une forme d'archaïsme. Je l'ai moi-même pensé il y a quelques décennies. Je n'en suis plus si sûre. Et finalement, la persistance de ce genre littéraire, ambitieux, difficile à mettre en œuvre quand on est seul, qui nécessite finalement souvent une équipe, doit conduire à prendre en considération que ce genre demeurait pertinent aux yeux des auteurs qui choisissaient d'y souscrire. Certes, depuis la grande époque de Sigebert de Gembloux, le genre a subi des modifications, mais il demeure un cadre formidable pour relire le passé et y inscrire sa propre histoire ou celle de sa communauté, de sa nation, dans un jeu modulable d'échelles spatio-temporelles. La chronique à laquelle nous avons affaire ici n'est pas à proprement parler un abrégé ou un manuel, comme les dominicains aimèrent à en produire pour soutenir leur travail de prédication. Elle ne se présente pas davantage comme une histoire de l'Église ou comme une chronique des papes et des empereurs, genre également en vogue chez les frères. Pour autant, le fil conducteur n'en est pas la succession royale française, ni la succession royale anglaise. Et le lecteur est d'ailleurs très surpris de la pauvreté des notices des rois français et anglais, comme des erreurs qu'elles peuvent contenir. Parce que finalement, le tropisme qui est à l'œuvre dans cette œuvre, c'est celui de la place des Normands. Ce tropisme s'exprime avec discrétion dans les deux premiers livres. Nous ne savons plus quel traitement était réservé à la Normandie et aux Normands dans la description Urbis Terrarum du livre 1. Il n'avait a priori aucune raison de figurer dans le livre 2, puisque celui-ci était exclusivement consacré à l'histoire des Juifs. Je note quand même, à la fin du livre 2, ce départ de Joseph d'Arimathie, emportant le précieux sang du Christ, jusqu'au rivage où s'élèvera un jour l'abbaye de la Sainte Trinité de Fécamp, opérant ainsi, vers la Normandie, un transfert de sacralité, ouvrant chez les Normands une sorte de prolongement de l'histoire du salut. Les Normands sont absents du livre 3, qui voit se succéder les quatre empires de la prophétie de Daniel, et qui prend fin avec la translation Hyperii aux Francs en 800. C'est donc vraiment dans le livre 4 que les Normands prennent toute leur place. Le plan de ce livre 4 n'a rien d'évident et il peut apparaître au premier regard comme une sorte de pot-pourri plus ou moins structuré autour de l'histoire des rois de France. Eugène Châtel s'est efforcé d'en repérer les articulations. Je propose de reprendre un petit peu son travail pour essayer de voir la logique qui peut exister entre les différents éléments qu'il a repérés. En étant attentif à ces lieux opportuns qui sont annoncés par l'auteur pour ouvrir vers l'histoire bretonne, vers l'histoire normande, vers l'histoire anglaise. Le premier épisode distingué par Châtel est celui de l'histoire des Francs, entre 800 et 855. C'est finalement le temps de l'Empire unifié, jusqu'au premier raid normand, ou du moins jusqu'au moment où ces raids normands compliquent vraiment la situation. La seconde section est un résumé de l'histoire de l'Empire sous les Carolingiens, puis le transfert de cet empire aux Saxons, jusqu'à la mort de Manfred en 1266. L'anonyme justifie cette digression par un souci pédagogique, l'histoire des empires germaniques, des empereurs germaniques ayant été, selon lui, jusqu'ici ignorée de nombreuses personnes. Mais ce résumé est aussi une réflexion sur l'Empire et ses contingences. Après avoir reçu la translation Imperii, les Francs l'ont perdu au profit des Saxons. D'un autre côté, l'action des empereurs germaniques a souvent été très défavorable à l'Église, et celle-ci en a tiré les conséquences, en confiant le royaume de Sicile à Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, dont j'ai déjà dit que c'est une figure importante dans cette chronique. Après la mort de Manfred, il ne sera plus question d'empereur dans la chronique. L'anonyme semble avoir compris ou donné l'impression que la nécessité de l'Empire est désormais très relativisée et il retourne à ce moment-là à l'histoire des rois de France. Il repart du règne de Charles le Chauve et déroule une troisième section, fortement marquée, me semble-t-il, par les affrontements entre les rois carolingiens et capétiens d'un côté et les normands de l'autre, une section qui aboutit à la soumission de ces normands à Philippe Auguste en 1204. C'est une première version de l'événement de 1204. Cet épisode de 1204, cet événement de 1204, dit-il, est le moment qui lui semble opportun pour parler de ces Normands et des Anglais. Il ouvre alors une quatrième section qui est un long extrait de la matière bretonne et normande qu'il a emprunté donc à Geoffroy de Monmouth et qu'il emprunte également à tout ce dossier de Robert de Torigny. Et ce dossier lui permet d'aboutir à 1066, à la mort d'Harold, qui, Deo volente, regnum perdivit, quod propria injusticia usurpavit. On voit bien ici l'objectif de cette digression sur les Normands qui viennent au pouvoir en Angleterre. Les ducs de Normandie ont été rois d'Angleterre en toute légitimité. Ce moment de 1066, le moment où Guillaume s'empare du trône d'Angleterre, est évidemment le plus opportun pour donner au lecteur un résumé de l'histoire des Normands. S'ouvre alors le morceau de bravoure de la chronique, qui est marqué visuellement dans la mise en page par un effet de seuil. Alors que nous sommes à l'intérieur du livre 4, que nous avons simplement un changement de chapitre, il y a un effet de seuil de même nature qu'au passage d'un livre à l'autre. L'initiale qui ouvre la digression sur les Normands, que vous avez sous les yeux au folio 165, est exactement de la même taille que celle qui ouvre le livre 3. Donc vraiment un effet de seuil qui est voulu ici dans le décor de ce manuscrit. Ces Normands descendus des Danois, qui devaient eux-mêmes leur nom aux Troyens Danaus, ont mis à feu et à sang le royaume de Charles le Chauve, et lorsque celui-ci leur demanda s'ils souhaitaient se soumettre aux Francs, eh bien ces Normands firent répondre qu'ils étaient Normands et qu'ils voulaient occuper la contrée sans payer de tribut. Il y a là un parallèle évident avec l'opposition des Francs aux tribus exigées par les Romains, mais on imagine bien sûr la tonalité que pouvait prendre ce passage dans les années 1335-1343, où le roi de France entendait faire contribuer les Normands récalcitrants à l'effort de guerre. Le baptême de Roland met en place une dynastie pour laquelle l'auteur donne, comme pour les rois de France et d'Angleterre, la date de l'avènement et la durée du règne. Ces ducs normands se révèlent d'emblée comme de généreux fondateurs et de précieux protecteurs des églises et des monastères, mais parmi eux, la figure de Guillaume s'impose. Il y a là une notice très longue, très, très nourrie, vraiment une figure emblématique, une figure modèle. Après la mort de Guillaume, les Normands s'illustrent encore, à l'occasion de la première croisade, par exemple, et jusqu'au règne d'Henri Ier, les notices sont assez nourries. Ensuite, il y a une sorte de perte d'information, sans doute liée au texte de Robert de Torigny qu'avait notre auteur, et on en arrive à Jean Sans Terre, où nous avons une seconde version de 1204. L'épisode de 1204 est donc raconté deux fois dans la chronique. Cette deuxième version commence par charger Jean Sans Terre de tous les péchés, et puis sans transition aucune, l'anonyme explique qu'au départ, la Normandie était un alleu, qui ne se réclamait que de Dieu, et puis que le duc Richard avait le premier fait hommage au roi Robert du duché, que depuis, le roi de France était devenu le suzerain du duché de Normandie. C'est pourquoi, dit-il, Jean a été incriminé devant le roi de France. Il y a donc là une lecture qui est liée, la deuxième version de l'épisode de 1204, le lie au droit féodal et justifie la conduite de Philippe Auguste et justifie la confiscation du duché de Normandie à Jean Sans Terre. La notice s'achève sur la fuite de Jean Sans Terre, la fuite de Normandie. Il sortit de Normandie et il n'y revint jamais. Donc, justification de la légitime domination du roi de France sur la Normandie, sans aller jusqu'à considérer, comme le fait Bernard Guy une dizaine d'années avant que l'anonyme de Caen n'écrive, qu'il s'agit d'une réincorporation de la Normandie. Alors, je renvoie ici à ce que nous avons vu hier avec l'exposé de Lidwin. Bernard Guy dit, ben voilà, il y a 315 ans que la Normandie avait été cédée, ben voilà, elle réintègre le royaume. Chatel s'interrogeait sur la présence dans les deux notices relatant 1204 de l'expression « usque nunc », appliquée à la domination royale qui se met en place avec la victoire de Philippe Auguste. Il soupçonnait l'anonyme de souhaiter le retour en Normandie des anciens ducs, les rois d'Angleterre. Rien ne me paraît justifier une telle interprétation. Dans la suite du récit, les rois d'Angleterre n'ont plus aucune place et l'anonyme voit dans l'hommage d'Amiens un gage de paix entre les princes chrétiens. Il ignore totalement les autres candidats à la succession ducale normande. Par exemple, il n'y a rien sur les Évreux-Navarres. Il oppose aux arguments que Robert d'Artois présente à Édouard III une lecture de la succession de 1328 parfaitement conforme à ce que disent les sources pro-Valois. Il reproche à Benoît XII d'avoir favorisé le roi anglais et se réjouit de ce que sa mort permette la répression des traîtres et la recherche d'une voie de paix sous l'autorité de Clément VI. Enfin, la lecture qu'il donne des condamnations d'Olivier de Clisson et surtout de Godefroy d'Harcourt et de ses complices ne laisse planer aucune ambiguïté. C'est avec raison que le roi a fait justice. Philippe VI est d'ailleurs présenté comme un roi pieux, en témoigne son pèlerinage sur le tombeau de Saint-Louis d'Anjou. Et de ce pèlerinage, Philippe VI est revenu en France avec la ferme volonté de réformer le royaume pour le faire revenir à l'état de Saint-Louis. Sur le principe, donc, la domination du roi de France ne pose aucun problème, elle n'est pas remise en cause. Et l'on peut penser que la concession du duché à Jean, le jour de la Saint-Michel 1332, ouvre sans doute pour le chroniqueur une ère nouvelle, une ère dont il se réjouit. La bonne entente rétablie entre le roi et les Normands se concrétise à une date que le chroniqueur ne précise pas, dans le renouvellement et l'élargissement par le roi de la charte aux Normands et le don en retour de 50 000 livres tournois que les Normands lui accordent. Dans une Normandie en proie, comme le reste du royaume aux difficultés économiques, et qui se sent davantage que le reste du royaume exposé au risque d'une guerre, qui sévit déjà dans la Bretagne voisine, et l'anonyme y est très attentif. Le salut semble donc être dans l'attachement au roi et à son fils, par qui la Normandie a retrouvé un duc perdu depuis 1204. Cet attachement est sous réserve que l'un et l'autre garantissent les libertés normandes. Vis-à-vis du roi, l'heure est, on le sait, à d'âpres négociations. Le fils, qu'on a encore peu vu en Normandie, est une promesse, un avenir qu'il faut préparer. En l'absence d'un prologue, il serait bien sûr imprudent de dépasser le stade des hypothèses, voire de l'intuition. Mais nous avons sous les yeux un manuscrit soigné, peut-être un manuscrit de présentation. Il présente, au creux de cette histoire universelle, la destinée particulière des Normands, qui s'est jouée longtemps entre le royaume de France et d'Angleterre, pour s'inscrire, semble-t-il, durablement dans l'orbite du premier. Le texte, fortement nourri d'exemplats, livre aussi en modèle quelques figures de rois à imiter, celle de Guillaume et celle de Saint-Louis. Et puis il y a dans ce dossier d'addition ce résumé très exhaustif, très soigné, du livre du jeu des échecs de Jacques de Cézolle. C'est un grand succès de la littérature didactique dont Jean de Vigné, né dans les environs de Bayeux, vers 1282-1285, c'est-à-dire un parfait contemporain de l'anonyme, réalise dans ces mêmes années une traduction pour le jeune prince qui vient de recevoir le titre ducal de Normandie. C'est une coïncidence troublante. Elle suggère, à défaut d'éléments probants, pour aller plus loin, que la lecture de la chronique de l'anonyme aurait pu contribuer à la formation du nouveau duc, parce qu'elle reflétait l'interprétation que se faisait de leur passé et de leur place dans le royaume, l'auteur et sa communauté. Je vous remercie.